Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour BFM Politique. Notre invité sera très probablement sur la ligne de départ de l'élection présidentielle. Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, est avec nous ce matin. Il propose un Big Bang, notamment en matière fiscale et économique. Il nous livre tout de suite ses propositions. BFM Politique, c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver, Dominique de Villepin. Bonjour, merci d'être notre invité à mes côtés pour vous interroger. Amandine Atalaya, éditorialiste politique BFM TV, et Ludovic Vigogne de La Tribune Dimanche. Bonjour. Une année présidentielle qui s'est très vite lancée. Dans un instant, on va revenir notamment effectivement aux propositions économiques que vous mettez sur la table, notamment en matière de fiscalité. On voit que la question de l'immigration aussi est très présente en ce début de campagne présidentielle. Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, était notre invité hier. Il a confié à Marie Chantrey qui voulait organiser un référendum sur l'immigration avec notamment la fin du droit du sol. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, permettez-moi de commencer par le début. Nous sommes dans la rentrée et au sortir d'un été qui a parlé politique plus que jamais. Parlé politique à cause de la multiplication des crises. Nous avons été confrontés à la sécheresse, à la canicule, aux incendies. Et derrière chacune de ces catastrophes, la même impuissance publique, la même difficulté pour l'État à apporter des réponses, tant ces risques avaient été peu ou mal anticipés. Et à côté de cette impuissance publique, il y a eu une formidable solidarité des Françaises et des Français. On l'a vu dans les agriculteurs apportant secours à ceux qui étaient victimes de ces incendies, on l'a vu les maires ouvrir la porte d'un certain nombre de leurs installations pour loger ceux qui n'avaient plus de logement. Et tout ceci doit nous alerter. D'abord sur l'importance de prendre en compte en matière politique le réel. Le réel, en l'occurrence cet été, c'est d'abord un réel écologique. On ne peut pas tourner le dos à la nature. Il y a un cycle de l'eau. Il y a un cycle des forêts, il y a un cycle des sols. Et chaque fois qu'on s'en éloigne, l'homme prométhéen qui s'estime au-dessus de sa condition, eh bien il est rattrapé par la réalité. Deuxième réel qui s'est imposé à nous, c'est le réel financier. Nous nous réveillons aujourd'hui avec des taux d'intérêt à plus de 4%, une dette qui s'emballe, un déficit qui ne se réduit pas. Cette réalité-là, il faut la traiter. Est-ce qu'on peut la traiter dans le système politique, économique et financier existant? Si je suis devant vous, si je m'engage dans cette campagne, c'est bien parce que j'ai la conviction qu'à système égal, ce n'est pas possible. Et que depuis 20 ans, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, eh bien, nous avons vu à chaque fois la même impasse.
Et ces images
et ce que nous voyons, c'est une campagne électorale qui débute avec deux pôles très forts, deux pôles de radicalité, la France insoumise d'un côté et le Rassemblement national de l'autre, et entre les deux, un système flottant, un système politique flottant, qui lui veut perpétuer un système qui fait faillite. Et on voit bien que dans ce système-là, ce ne sont pas des mesurettes, des faire-valoir qui nous permettront de sortir de tout cela. Donc j'accueille avec intérêt la proposition de Monsieur Bardella, mais je rappellerai simplement que le référendum, c'est pas une formule magique qui consiste à mettre à l'encan les problèmes les plus difficiles. C'est pas oui, non sur l'immigration. Derrière l'immigration, on l'a vu lors du débat de la REF avec le MEDEF, il y a des enjeux économiques. Les entreprises ont besoin d'emplois. Derrière l'immigration, il y a tous nos services publics. Comment vous faites fonctionner l'hôpital aujourd'hui sans recours à cette immigration ? Donc il faut être sérieux et je prends la proposition de Monsieur Bardella comme une énième surenchère sur un sujet qui place le Rassemblement national en dehors des règles républicaines qui sont les nôtres, c'est-à-dire avec vocation à changer la Constitution, changer les traités et au bout du compte, changer de pays. Moi, je suis né et j'ai grandi dans une France, pays des droits de l'homme et du citoyen, dans un pays qui a une certaine idée de l'universel.
Le RN au pouvoir, ce serait la fin des droits de l'homme.
Et je vois ce pays se rétrécir et imaginer qu'on puisse trouver un salut dans l'exclusion. Alors on voit bien, la campagne politique, elle se ramène à un jeu d'exclusion. Certains veulent exclure les riches, d'autres veulent exclure les immigrés, d'autres encore exclure les fonctionnaires. C'est un combat à somme nulle.
Précision,
pour être plus précis, parce qu'on a du mal à saisir votre position sur l'immigration et vous en parlez assez peu en général. Est-ce que vous diriez, je déduis de vos propos, que l'immigration est une chance pour la France?
Alors, Madame Allière, je ne veux pas tomber dans le piège de formules toutes faites. Chacun sait qu'il y a un piège derrière chaque formule toute faite. Ce que je dis, c'est que nous avons besoin d'une certaine immigration pour faire avancer notre pays. On connaît tous l'évolution démographique de la France, le vieillissement de notre pays. Qui allons-nous mettre dans un certain nombre des emplois indispensables? Pensez à la restauration, comment vous faites fonctionner la restauration sans l'immigration? Pensez à un certain nombre de services à la personne, comment vous faites fonctionner? Pensez à l'hôpital une fois plus. Nous avons besoin d'immigration. Donc l'idée de diaboliser toute forme d'immigration et de mélanger l'immigration régulière et l'immigration irrégulière me paraît très dangereuse, à la fois pour notre économie et en même temps, je le redis, pour notre système
mais
républicain.
Mais sans diaboliser, est-ce qu'il y a un pendant ou, comme le dit par exemple François Hollande, qui est de gauche, lui dit qu'il faut mieux contrôler l'immigration et il faut resserrer le regroupement familial.
Mais nous sommes là dans le jeu des évitances et des platitudes. Je crois qu'il est inutile de rappeler que, bien sûr, il faut maîtriser notre immigration. Il faut donner toute sa place à l'immigration légale, lutter contre l'immigration illégale et à chaque fois adopter les bons moyens. Mais sans renier nos principes. Quand je vois Édouard Philippe, membre d'un parti républicain, dire à Mayotte qu'il faut revoir le droit du sol et revoir les droits d'asile, on est en France à Mayotte. Si on remet en cause le droit d'asile à Mayotte, qu'est-ce qu'on fait sur l'Hexagone, le territoire national?
Il dit aussi qu'à Mayotte, la situation est exceptionnelle, donc ça nécessite des mesures exceptionnelles.
Eh bien, n'y aurait-il donc pas d'autres moyens exceptionnels pour lutter contre l'immigration?
À Mayotte, par exemple?
À Mayotte, par exemple. Nous avons un dispositif naval à Mayotte qui a déjà donné des résultats. Nous avons changé la loi en 2025 à Mayotte pour exiger que les deux parents et passer un certain temps sur le territoire national, au moins un an sur le territoire national, avant de pouvoir avoir un enfant déclaré français. On a adopté le décret quand? Quand est-ce qu'on a adopté le décret? Il y a quelques mois. On a à peine voté une loi qu'on est déjà en train de prévoir des solutions exceptionnelles comme si la loi n'existait pas. Appliquons la loi et surtout, mettons en place un dispositif naval. Nous n'avons pas, outre-mer, de préfet maritime. Ayons un préfet maritime, nous avons une marine qui a vocation à jouer tout son rôle, développons un système naval, là où nous avons effectivement une épreuve et une crise, faisons en sorte, à partir de là, d'être plus efficaces. Mais ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que l'immigration à Mayotte, elle n'est pas due seulement, loin s'en faut, à la perspective d'acquérir la nationalité française. Elle est due tout simplement à un différentiel économique. Nous sommes à 70 kilomètres d'Anjouan. Donc, par définition, et tout près des côtes de l'Est de l'Afrique. Donc, l'immigration vient naturellement parce qu'il fait meilleur vivre à Mayotte compte tenu de la situation économique et de la situation sociale que de rester chez soi. Ce différentiel-là, il ne peut être combattu qu'à travers des politiques de coopération, à travers des stratégies diplomatiques qui nous permettent d'apporter des réponses. Une fois de plus, je le redis, il n'y a pas de raccourci en matière de politique publique. Et tout seul qui veut jouer à coup d'exception, non seulement font des entorses à notre régime républicain, mais en plus court dans la surenchère. Et
comment
en l'occurrence, monsieur
Édouard
Philippe, il fait le jeu du Rassemblement National. Qui préférera la copie, c'est-à-dire monsieur Philippe, à madame Le Pen? Il fait le jeu à travers la surenchère de madame Le Pen. Et c'est exactement le piège dans lequel tombe non seulement le parti Les Républicains, mais aussi le Bloc Central, mais aussi une partie de la gauche. Et c'est pour ça que je le redis. La clé, c'est la règle commune. Respectons la règle commune et mettons en place des politiques publiques plus efficaces, croyez-moi, en termes de mobilisation de nos moyens, de notre marine en particulier, nous avons la possibilité d'être beaucoup, beaucoup plus efficaces qu'à travers un changement de dispositif dérogatoire comme celui que propose...
Édouard Philippe qui propose cela, la question économique, on l'a vu, qui est au cœur de ce début de campagne également. Vous proposez, vous, un grand Big Bang, notamment fiscal, supprimer toutes les niches fiscales.
Vous allez jeter le bébé avec l'eau du bain.
Un grand Big Bang fiscal, est-ce que... Vous avez changé de nom pendant l'été, vous appelez Dominique Milley, Javier Villepin désormais, la tronçonneuse est en main et c'est parti.
Manifestement, vous avez perdu vos lunettes pendant l'été. Alors, je dis des choses très précises et qui n'ont rien à voir avec ce que vous venez de dire. Il ne s'agit pas de supprimer l'ensemble des dispositifs qui sont à travers les niches, mais il s'agit simplement d'ouvrir la boîte noire, la principale boîte noire de notre fiscalité, de notre système social. Constatons. Et c'est de là qu'il faut partir. Le procès d'intention qui est fait partout sur la scène politique à la dépense sociale. Tout le monde constate que la dépense sociale, eh bien, est en train de sortir de son lit et ne peut pas être maîtrisée. À partir de là, tous les Français auront compris que le modèle social est en cause. Et quand j'écoute l'ensemble des partis politiques, soit ils ferment les yeux devant cette réalité... Soit ils ne la traitent pas que par des mesurettes. Alors, ici, on veut augmenter de 2 points la TVA, là, on veut bêcher les franchises, là, on veut un jour de carence supplémentaire. C'est la compétition, c'est la politique à neuneux. C'est la compétition...
C'est
n'importe quoi, c'est la foire. Vous savez, une campagne électorale où chacun promettrait à ceux qui sont en face de lui ce qu'il a envie d'entendre, c'est sympathique. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai participé à 2 victoires aux élections présidentielles. 2 victoires. Et je sais ce que c'est que le lendemain d'une élection présidentielle, se retrouver dans un bureau en responsabilité, se trouver en charge de ce qu'on a promis. Et je vous dis ici très solennellement, jamais je ne me mettrai dans la situation de me retrouver dans un bureau de la République et de ne pas pouvoir tenir les promesses que j'aurais faites la veille. Tous ceux qui aujourd'hui s'engagent baisser les impôts, par exemple, les augmenter inconsidérément, se retrouvent aujourd'hui...
Vous les augmenterez, vous ?
Se retrouvent aujourd'hui à avouer leur impuissance. Moi, je dis autre chose et je réponds à votre question. Je dis, sous le capot, nous ne savons pas ce qu'il y a. Soulevons le capot, ouvrons la boîte noire et à partir de cette boîte noire qui représente 175 milliards d'euros, ou le meilleur... La lutte contre le handicap, la prise en compte des spécificités de l'outre-mer, toutes ces réalités qu'il faut traiter, eh bien, seront traitées par 5e chaque année. Nous prendrons 1/5 de ces 175 milliards et nous ferons en sorte de les diviser en 3/3. Il y a l'argent qui servira à la compensation des choses absolument nécessaires. Ça représente 11 milliards par an. Il y a ce qui permettra de reconstruire des politiques publiques en dehors d'une boîte noire, en ayant mis à plat la réalité, encore 11 milliards, et 12 milliards qui iront au désendettement. À ce jour, je ne connais pas, sur l'échiquier politique, de plan de désendettement plus réaliste que celui que je propose.
De niches très concrètes, Amandine.
Oui, une qui concerne énormément de Français, par exemple, celle sur le crédit d'impôt pour les emplois à domicile. Tous les Français qui emploient quelqu'un qui garde leur enfant, qui fait du ménage, du jardinage, vous la conservez ou vous la supprimez, cette niche fiscale ?
Toujours la même question. Je vous dis, ouvrons capot.
Je ne vais pas vous répondre ici.
Vous savez combien il y a de niches sociales et fiscales en France ?
Non, mais celle-ci, c'est la
474. 474. Donc je ne vais pas vous répondre par oui, non, en 2 minutes. Ce que je vous dis, c'est que nous prendrons... Évidemment, il ne s'agit pas de supprimer les services à la personne. Il s'agit de les traiter en dehors d'une exception et en dehors de la boîte noire, à travers une vraie politique publique des services à la personne. C'est-à-dire pas en catimini, pas dans l'opacité. Le malheur de notre pays, c'est l'opacité et la déviance par rapport à une règle républicaine. Et à chaque fois, nous nous poserons la question, est-ce que c'est utile ? Est-ce que cela contribue à l'emploi ? Est-ce que nous pouvons faire mieux en faisant autrement ? Et donc, chaque niche sera inspectée selon cette règle. C'est ce que nous avons un peu fait entre 2005 et 2007, quand j'étais Premier ministre. Et je vous précise que c'est la seule période où nous ayons à la fois réduit le déficit et la dette, et personne ne peut le contester, il suffit de regarder les chiffres sur le plan historique, à travers la première conférence des finances publiques, nous avons donc obtenu des résultats. Donc je ne sors pas ça de mon chapeau. Mais de la même façon qu'il faut revenir au réel quand il y a des feux de forêt, il faut revenir au réel quand il y a une dérive financière d'une telle ampleur que nous ne pouvons pas à la fois céder sur le plan de la règle républicaine pour tous. Aujourd'hui, les Français ont compris. La règle, c'est le deux poids, deux mesures. Il y a ceux qui, en permanence, s'en tirent bien. Et on voit tous les avantages que peuvent tirer un certain nombre de favorisés du système actuel. Et c'est toujours les mêmes qui payent et qui se retrouvent en ajustement. C'est pour cela que nous avons constamment la sollicitation vis-à-vis des retraités, la sollicitation du côté des moins favorisés. Moi, je veux la justice sociale et la règle républicaine. Donc, une fois de plus, l'objectif, en ouvrant le capot de ces 175 milliards d'euros, c'est d'arrêter de céder aux fantasmes, de reprendre le contrôle républicain et démocratique de notre destin et de dégager des marges de manœuvre. Nous aurons ainsi un vrai chemin de retour en dessous des 3% de déficit et nous aurons repris le contrôle de notre dette, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Ludovic.
Dans votre Big Bang, il y a un point que vous n'évoquez pas, c'est la question des retraites. Aujourd'hui, la réforme Borne, qui porte l'âge de départ à 64 ans, est suspendue. Avec vous, quel serait l'âge de départ à la retraite ?
Alors, très bonne question. Il ne vous a pas échappé, Monsieur Vigogne, que cette même question a mis beaucoup de monde dans la rue et beaucoup de malheureux et a conduit le gouvernement à retirer.
Donc, pas retirer, à suspendre.
Oui, enfin, vous m'avez compris. Deuxième élément. Tirons les leçons. La règle de la politique numéro un, c'est de tirer les leçons. Tirer les leçons, c'est quoi ? C'est remettre les partenaires sociaux en responsabilité. Si je vous dis aujourd'hui, d'autorité, je vais fixer l'âge de la retraite à 64, 65 ans, d'emblée, je fais exactement ce qu'il ne faut pas faire.
Mais vous avez une idée quand même.
Il va falloir travailler plus longtemps, vous dites, comme Édouard Philippe, quand même cela ?
Ou même pas ? Il faut prendre en compte la démographie. Il faut prendre en compte les inégalités de situation devant la pénibilité des emplois et donc les conditions de travail. Il est bien évident que, regardez, moi j'ai 72 ans, j'ai jamais arrêté de travailler. Pourquoi ? Parce que l'espérance de vie qui est la mienne, compte tenu de la vie qui a été la mienne, me permet d'espérer vivre plus longtemps. Si j'avais transporté des sacs ou travaillé dans une usine en 3-8, eh bien il est bien évident que la santé qui est la mienne ne serait pas la même et j'aspirerais à faire autre chose et je ne serai donc pas devant
vous.
Donc vous
ne donnerez pas d'âge de départ à la retraite.
Donc, c'est ce que j'ai dit, j'ai été l'un des premiers à proposer cette solution, de sortir de cet âge pivot, de cet âge tabou, pour compter davantage en trimestre, offrir la possibilité à nos compatriotes de choisir. Et on voit bien que dans l'arbitrage entre travail et retraite, un certain nombre d'entre eux privilégient cela, privilégient la retraite. Et puis prenons en compte le problème central derrière tout ça, quel problème du taux d'emploi quand nous savons qu'une grande partie des seniors ne trouvent pas d'emploi à partir de 52, 53 ans, 54 ans et qu'une grande partie des plus jeunes rentrent dans l'emploi vers 25, 26, 27.
Lier l'âge de départ à la retraite à l'espérance de vie que propose Bruno Retailleau, c'est une bonne idée ?
Oui, enfin, il le calcule comment, cette espérance de vie ? C'est pas tant l'espérance de vie que les conditions de vie. Et donc, je pense que à offrir à nos compatriotes une certaine flexibilité de choix. Si vous êtes en forme et que vous avez envie de continuer à travailler, vous travaillez, il faut qu'il y ait un avantage assez significatif pour ceux qui souhaitent continuer, que ceux qui n'en peuvent plus et qui espèrent profiter un peu des beaux jours puissent le faire, c'est la moindre des choses. Donc une fois de plus, d'abord les partenaires sociaux, donc conférences sociales, concertations, conventions citoyennes. Vous savez, moi j'ai tiré les leçons du CPE, je ne referai pas les mêmes erreurs. Je crois qu'il faut prendre en compte aujourd'hui le fait que personne n'est en mesure d'imposer ni aux partenaires sociaux, ni aux Français, ce qu'ils ne veulent pas. Et donc, tous ceux qui veulent, par décret, augmenter le SMIG, ou qui veulent, par la loi, augmenter l'âge de la retraite, iront devant de grandes déconvenues. Et ne l'oublions pas, les 5 prochaines années, sur le plan social, seront des années chaudron. Autant en matière sociale qu'économique et financière. Parce que les marges de manœuvre sont réduites et qu'il faudra donc être extraordinairement attentif à ce que pensent les Françaises et les Français, à ce qu'ils ressentent. Mmh. Nous sommes dans un pays qui est à bout devant l'impuissance publique, qui est assez allergique à la classe politique. On dit, la campagne est lancée, il y a les deux tiers des Français qui ne veulent pas entendre parler de la campagne. Je ne sais pas d'ailleurs si la campagne commencera. Parce que, croyez-moi, si c'est pour entendre des propositions comme celle de Monsieur Retailleau, travailler une demi-heure de plus par jour, c'est facile quand on est nourri par le beau climat vendéen et que on a passé ces années au Sénat.
Justement, puisqu'on parle de ces propositions, Dominique de Villepin, puisqu'on parle de ces propositions et que vous parlez de la dépense sociale, pour la réduire, Édouard Philippe a fait des propositions très concrètes. Par exemple, réduire les arrêts maladie, il dit que c'est l'open bar, ou réduire la durée d'indemnisation du chômage pour les moins de 50 ans.
C'est ce sont des propositions sérieuses. Très concrètes et pas sérieuses.
Pourquoi?
Parce qu'il est exactement dans le schéma que j'indiquais. C'est-à-dire qu'il démantèle notre système social, notre modèle social. La santé, l'éducation, le logement, il est perçu par la plupart des parties de l'espace central comme un coût. Comme un coût. Et donc, il faut le réduire. Moi, je pars de l'idée que l'éducation...
On ne voit pas où vous trouvez vos 125 milliards d'euros d'économie,
je viens de vous
parce
dire.
Que à chaque fois qu'il y a quelque chose de douloureux à dire, vous l'évitez.
Mais c'est bien pour ça. Mais oui, mais moi je fais porter le douloureux sur ceux qui sont les plus fortunés. Les 12 milliards par an que je fais sur les niches fiscales, c'est du douloureux, ça.
Le retour de l'ISF?
Mais non,
aussi,
pas
par
du
exemple,
tout. Je vous ai expliqué qu'il y avait 3/3.
Oui, ça on a suivi.
Voilà, bon, ben oui, mais donc vous avez bien vu qu'il y avait 12 milliards.
Ça fait 12 milliards, vous dites il en faut 125 à économiser.
Non,
ça laisse une marge.
C'est 125 en ajustement budgétaire à la fin. Mais chaque année, c'est entre 25 et 30. Donc, il y a 12 milliards déjà en ce qui concerne le nettoyage des niches fiscales. Il y a 9 milliards qui concernent l'impôt sur les successions. Et puis, il y a le retour d'un impôt sur la fortune de 8 milliards, plus 2 milliards en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale et sociale. On arrive aux chiffres nécessaires.
Dominique,
donc, croyez-moi, je sais compter. Mais je reviens à ce que je disais, c'est important. Les services publics ne sont pas un coût. C'est au contraire un investissement pour la nation. Plus nous formerons les jeunes Françaises et les jeunes Français, plus nous donnerons un logement à ceux qui sont en attente. Il y en a 3 millions qui sont en attente, alors qu'il y a 3 millions de logements vides. Je sais bien qu'ils ne sont pas au même endroit, mais il faut complètement changer la logique. Ce que je veux souligner, c'est que si nous ne changerons pas le système qui est dans l'impasse, ce n'est pas en coupant les cheveux en quatre, en prenant des mesurettes et en les additionnant, que l'on pourra rendre ce système vertueux. Ce système, il sera encore un peu plus en faillite, comme il l'est aujourd'hui.
C'est le moment de notre séquence, plutôt justement. Regardez ces deux photos, je vous propose deux photos. Vous allez me dire de quel côté vous penchez. Regardez plutôt Manon Aubry ou Bernard Arnault. Manon Aubry qui, en début de semaine, a dit qu'a qualifié les milliardaires de nuisibles. Plutôt Bernard Arnault ou Manon Aubry?
Monsieur Darret.
Réponse courte.
J'ai pas mis ce matin ma petite culotte de chou pour me faire botter le derrière par les petits lapins. Donc, vos jeux, vous voulez garder, plutôt, pas du tout.
Voilà. Pas du tout.
Pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu pour jouer, monsieur Darret. On n'est pas
qui veut gagner
des millions. Mais c'est pas des questions politiques. C'est des quiz. Les quiz, vous les faites avec ceux que ça amuse.
Donc, vous n'avez pas le courage de choisir entre les deux?
Du courage. Mais je ne suis pas sot au point de choisir entre les deux. Parce que ça, ce n'est pas de même nature.
Vous comparez
un milliardaire à la tête d'une grande fortune française qui a créé des emplois en France et une députée de la France insoumise.
Dont les propos vous choquent?
Mais bien sûr que les propos me choquent. Évidemment, si vous m'aviez dit, est-ce qu'on peut qualifier de nuisible un certain nombre des responsables d'entreprises françaises, je vous dirais tout de suite, mais c'est absurde, c'est dangereux. Et c'est autant dangereux qu'un certain nombre de ceux qui étaient à la REF et qui se sont mis à rire quand l'un des candidats, Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le citer, a parlé d'augmenter le SMIC. Il faut du respect pour les Français qui peinent, pour les Français qui souffrent, et il faut du respect pour tous ceux qui contribuent au développement de la vie nationale.
Alors, on a bien d'accord.
Donc, mettons le respect, votre petit jeu, vous vous le gardez.
Eh ben, écoutez, on vous aura posé la question, on vous retrouve dans quelques instants. On va marquer une place pour vous dans cette campagne présidentielle. À tout de suite. Notre invité dans BFM Politique, Dominique de Villepin, merci d'être avec nous. Probable candidat à l'élection présidentielle, nous publions ce matin un sondage avec notre partenaire Elab ainsi que la Tribune Dimanche. Vous êtes crédité entre 2 et 2,5% des intentions de vote. Je vous reviens.
Il est où le bonheur?
À quoi sert votre candidature, Dominique de Villepin?
Eh bien, écoutez, d'abord à faire en sorte que je sois présent pour en répondre devant vous. Elle sert à faire ce que personne n'a envie de faire dans le microcosme politique
même à 2%
et médiatique, mais surtout à 2%. Elle sert à dire qu'il y a une alternative politique à l'impasse dans laquelle nous sommes depuis 20 ans, à dire que rien de bon ne peut sortir de tous ceux qui ont travaillé dans ce sens depuis 20 ans. Aujourd'hui, tous les candidats qui sont issus du bloc central sont liés au macronisme. Pourquoi voulez-vous que le macronisme donne quelque chose de meilleur? Ils peuvent toujours plaider la rupture, ils peuvent toujours plaider qu'ils ont appris. Quand je les écoute, les uns et les autres, ils sont dans la même politique. Et le seul choix qui reste aux Français, c'est les deux grands pôles, l'extrême droite et l'extrême gauche, et c'est pas un hasard si ceux-ci se maintiennent très au-dessus des autres, parce que eux, ils proposent quelque chose d'autre. Alors c'est hors sol, ce n'est pas applicable, ça nous fait changer de république ou de constitution, mais enfin ça le mérite au moins d'exister politiquement. Donc aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'il faut une alternative.
Et à 2%, vous y croyez ?
Je vois avec intérêt que depuis un certain nombre de mois maintenant, pour ne pas dire d'années, je plaide pour le rassemblement. Et je suis intéressé de constater qu'aujourd'hui, tout le monde dans l'espace central parle de rassemblement. La différence, c'est que moi, je n'ai jamais parlé de rassemblement des partis politiques. Moi, j'ai toujours parlé du rassemblement des Français. Je crois que les partis politiques ne peuvent rien donner de plus que ce qu'ils ont donné depuis 20 ans.
Un
et une fois de plus, c'est l'essentiel de l'échiquier politique.
Plutôt à gauche, quel espace mais, vous visez
mais
politique?
On a épuisé les capacités de la gauche avec François Hollande. On a épuisé les capacités de la droite avec Nicolas Sarkozy. Et on a épuisé les capacités de ce qui est censé dépasser la droite et la gauche avec Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que, trouvez le nom que vous voudrez, il faut offrir une alternative. Et l'alternative, elle tient en deux mots, ou deux formules. La règle républicaine, il faut appliquer la règle républicaine, et la justice sociale. Moi, je n'entends pas aujourd'hui de responsables politiques dans l'espace central qui préconise la règle républicaine. Monsieur Édouard Philippe à Mayotte, il tourne le dos à la règle républicaine. Monsieur Retailleau qui veut une demi-heure de plus par jour. Pareil, il change à chaque fois la règle. Moi, je suis pour offrir une alternative aux Français dans un cadre profondément rénové. Et c'est pour cela que je propose d'ouvrir la boîte noire et de changer en profondeur un système qui est dans l'impasse.
Mais est-ce que vous nous garantissez que le 18 avril 2027, le jour du premier tour, il y aura bien un bulletin Dominique de Villepin dans les bureaux de vote? Est-ce que vous irez au bout?
Mais, Monsieur Vigogne, si je suis là, si je me donne du mal, si j'ai une centaine de représentants partout dans le pays qui va solliciter les maires pour trouver des signatures, si nous multiplions les rendez-vous de collecte pour obtenir le financement de la campagne, c'est bien parce que nous avons cette intention, c'est un combat.
Mais vous n'avez pas eu de ralliement pour l'instant.
Mais je ne veux... Mais... vous voyez, vous n'écoutez pas ce que je dis.
Non,
mais vous n'écoutez pas ce que je dis. Je viens de vous expliquer que pour moi, le rassemblement, c'est le rassemblement des Français, c'est pas le rassemblement des partis. Le débauchage, Nathalie Kosciusko-Morizet qui rejoint Monsieur Philippe, je sais pas quel autre chapeau à plumes qui rejoint Monsieur Retailleau ou Monsieur Attal. Mais ça, c'est la politique à l'ancienne. On a déjà vu ça.
Et vous gouvernerez pas tout seul.
On a vu ça avec Monsieur Sarkozy. Ça nous a mené où? Donc, pas de débauchage. Moi, je demande à chacun de venir comme il est. Que les socialistes restent socialistes. Je leur demande pas de se renier. Que ceux qui sont au centre restent au centre.
Donc, ce sera un gouvernement d'union nationale,
mais,
quelque chose comme ça?
Mais c'est la volonté de tous ceux qui croient en la France, qui veulent servir les Français, de se rassembler pour changer les choses. Vous savez, moi, je ne cherche pas un poste. Je ne cherche pas à continuer le système. Je vois qu'il y en a qui se verraient très très bien à l'Élysée 50+, pour profiter du poste. Moi, j'ai toujours pensé que c'est beaucoup plus de maux de tête que d'avantages.
Vous parlez de la collecte des parrainages, notamment. Vous savez combien de parrainages aujourd'hui?
Écoutez, nous en avons de plus en plus, plusieurs centaines, mais pas suffisamment.
Mais 200, 300...
En 2012, c'est ce qui vous avait manqué pour être candidat au final.
Vous avez tout à fait raison, et c'est une collecte qui est difficile parce que le jeu partisan pèse très lourd dans cette collecte, et Les affiliations, communalité, intercommunalité pèsent également très lourd. Donc, un certain nombre de maires sont réticents à donner ce parrainage. Nous en avons plusieurs centaines et nous travaillons dur pour les obtenir.
Tout ça, ça veut dire, Dominique de Villepin, on est bien d'accord, que vous serez candidat à l'élection présidentielle.
Que je veux être candidat, monsieur Darrey, que je me bats pour être candidat, mais on ne fait rien tout seul.
Mais ce matin, vous
on ne fait rien. Vous parlez de 2% ou de 3%. On ne fait rien sans dynamique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans notre pays, une attente, une volonté de changer les choses, ou est-ce que d'ores et déjà, les Françaises et les Français sont résignés à ce que le pays continue comme aujourd'hui?
Non, mais ça, je vous arrête,
moi, ma conviction, c'est que nous sommes aujourd'hui, permettez-moi de trouver une métaphore, nous sommes dans la pyro-politique. Qu'est-ce que c'est que la pyro-politique? Emmanuel Macron, se déplaçant dans le Sud-Ouest, s'est retrouvé dans un QG face aux incendies. Et il a sorti une formule pour expliquer ce qu'étaient les pyro-cumulo-nimbus. C'est le feu de forêt qui se nourrit de lui-même et qui crée son propre vent. Aujourd'hui, la pyro-politique, c'est la politique du pire qui se nourrit elle-même et qui fait toujours pire. Moi, je propose qu'on sorte de cela, qu'on ouvre le moteur, qu'on regarde et qu'on mette à plat et qu'on rétablisse les choses de façon républicaine et à travers le prisme de la justice sociale.
Je me permets juste de vous arrêter parce que c'est une précision importante. Je trouve que c'est une avancée quand même par rapport au dernier mot que vous dites. Vous dites « je veux être candidat à l'élection présidentielle ».
Oui, bien sûr. Ben c'est, si vous l'avez pas compris, non mais, c'est que vraiment,
qu'est-ce que vous me dites ?
Ni le corps ni l'esprit n'expriment clairement ce que je veux exprimer. C'est exactement ce que je dis. Je veux être candidat à l'élection présidentielle, oui, bien sûr.
Et vous le confirmerez définitivement à l'automne ?
Et je le confirmerai la campagne électorale aura commencé, au-delà des jeux d'estrade, parce que j'estime que pour le moment, nous n'avons rien de sérieux à nous mettre sous la dent, et quand les Français eux-mêmes aspireront et se poseront la question de savoir celui ou celle qui est le mieux à même de redresser notre pays.
Est-ce que vous seriez d'accord pour participer à une primaire ou pas ? Primaire, par exemple, proposée par François Bayrou, qui dit ce matin dans une tribune à la Tribune Dimanche, on pourrait faire une primaire par Internet avec tous ceux qui font partie de l'espace républicain, ni LFI, ni RN. Vous participez à ce type de primaire ?
Mais la primaire, c'est le dernier gadget des désespérés. Aujourd'hui, nous voyons se multiplier sur tous les chiquiers des primaires sauvages. Il y a une primaire à gauche, et on peut même imaginer que quand la primaire sera terminée, il y aura peut-être d'autres candidats de gauche. Monsieur Hollande ne participe pas à la primaire de gauche. Et d'ailleurs, le mieux placé à gauche n'est pas vraiment socialiste, Monsieur Glucksmann. Donc, nous avons des primaires partout. Les Républicains, M. Retailleau est aujourd'hui candidat, mais il y a d'autres Républicains en embuscade qui veulent être candidats. Donc, l'ensemble du spectre politique est soumis aux primaires. J'estime que ce n'est pas le bon mode de fonctionnement. Pourquoi ? La primaire dévore ses enfants. Et quand vous sortez en slip de la primaire ou en maillot de bain, eh bien, vous êtes un peu mal placé pour prétendre briguer l'élection présidentielle. Donc, soyons raisonnables, menons le combat politique comme il faut le mener, devant les Françaises et les Français, et les Françaises et les Français arbitreront.
Mais on comprend pas bien avec qui vous auriez envie de travailler, à qui vous tendez la main. Vous pourrez pas gouverner tout seul, par exemple. Vous auriez envie de travailler avec Jean-Louis Borloo, avec Thierry Breton.
Écoutez, j'ai travaillé avec Jean-Louis Borloo et Thierry Breton. Ils ont fait partie de mon gouvernement et nous avons bien travaillé pendant 2 ans. Donc moi, je tends la main à tout le monde. C'est ce que je fais depuis maintenant plusieurs années. Je vois tout le monde. Mais je constate que le réflexe reste d'abord un réflexe corporatiste. La campagne se fait autour des partis politiques. La sélection sur un certain nombre de plateaux se fait à partir des partis politiques, beaucoup plus qu'à partir des propositions d'alternatives à un système politique qui n'en peut plus, mais...
Pour l'instant, ce sont les sondages sur lesquels on est obligé de se fonder pour avoir une idée de ce qui se passe. Et Marine Le Pen est qualifiée, quoi qu'il en soit, dans tous les sondages au second tour. Si elle devait l'emporter, est-ce que vous feriez partie de ceux qui respecteriez ce choix démocratique des Français, ou est-ce que vous appelleriez à une forme de désobéissance civile ?
La question est aujourd'hui beaucoup posée. Je fais partie des Républicains. Je serai intraitable sur le respect de la République. Et de ce point de vue-là, ne serait-ce qu'en tant qu'ancien Premier ministre, je me poserai en garant de la règle républicaine. Donc je dirai ce qu'il faut faire. Est-ce que je monterai sur les barricades ? C'est autre chose. Donc combat, oui, combat pour la défense de la République. Et par exemple, sur un référendum, comme le propose le Rassemblement national depuis 2024, qui viserait à réviser la Constitution par le biais de l'article 11 et pas par le biais de l'article 89, oui, c'est un coup de force. C'est une sorte de coup d'État déguisé et je ne l'accepterai pas. Donc, dire les choses clairement...
C'est-à-dire, vous feriez quoi ? Je ne l'accepterai pas ?
Je mènerai le combat politique. Je mènerai le combat politique. On va pas...
Mais pas d'insurrection.
Mais... Vous pensez à quoi, monsieur
Au propos de la France insoumise.
Pardon ?
Au propos de la France insoumise, oui, mais non, certains mais ont appelé à la désobéissance.
De sortir mes vieux pistolets. Hein, mon vieux sabre.
D'appeler à des manifestations.
Non, mais ça, c'est démocratique. C'est tout à fait démocratique. Donc oui, dans le cadre de la démocratie, bien sûr, s'opposer par tous les moyens démocratiques et républicains, vous m'avez parfaitement compris.
Un deuxième tour qui opposerait Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, vous faites quoi de
Encore un peu plus loin dans la politique fiction.
C'est pas vraiment de la politique fiction quand on voit certaines études d'opinion, Dominique de Villepin.
Oui, enfin, on en est encore loin.
Jean-Luc Mélenchon a de fortes chances.
Vous faites quoi
Je ne fais pas de politique fiction, j'ai toujours dit la conviction qui était la mienne. Je ne place pas la France insoumise sur le même plan que le Rassemblement national.
Pourquoi ?
Parce que l'héritage historique du Rassemblement national, les engagements qui ont été ceux du Rassemblement national ont profondément marqué la ligne politique et que cette ligne politique, pour moi, elle est entachée d'un certain nombre de risques.
Donc
je ne suis pas prêt à prendre ces risques. Alors, en ce qui concerne le scénario que je ne fais pas, et donc je ne réponds pas à votre question.
Allez-y.
Parce que si on commence à répondre à toutes les questions qui sont farfelues, on ne s'en sort pas.
C'est pas farfelu.
Si, elle est farfelue, parce que je ne crois pas du tout que Jean-Luc Mélenchon ait la capacité. Il est aujourd'hui très haut. Tout le monde suppose que parce qu'il est très haut, il ira encore plus haut. À un moment donné, on est rattrapé par un certain nombre de réalités. Jean-Luc Mélenchon a franchi, ou en tout cas s'est approché d'un certain nombre de lignes rouges. Et je l'ai dit à chaque étape, qu'il s'agisse de l'affaire de Rang, qu'il s'agisse du jeu autour d'un certain nombre de noms à consonance juive, je trouve cela dangereux dans notre démocratie. Et donc, je le dis très clairement, il ne faut pas d'ambiguïté avec la République. On est dans la République, on défend la République, et sinon, on se met en marche.
Mais vous vous sentez donc plus proche de Jean-Luc Mélenchon que de Marine Le Pen.
Vous ne diriez pas, comme Édouard Philippe, jamais je ne voterai pour un candidat RN ni pour un candidat LFI.
Mais
vous ne diriez pas ça.
Une fois de plus, je n'imagine pas ce scénario. Je pense qu'il faudrait que le pays et que tout l'espace central ait complètement choisi la résignation et refusé de mener le combat. Aucun rassemblement n'aurait donc eu lieu, aucun bon sens ne se serait opéré pendant cette campagne électorale et on aurait abandonné le pays à la radicalité.
Donc vous n'irez pas voter.
Je n'imagine pas que la classe politique et je n'imagine pas que les Françaises et les Français puissent se satisfaire d'un choix entre deux radicalités.
Donc vous n'irez pas voter dans ces cas-là, Dominique de Villepin.
Je ne vous ai pas dit ça. Je vous dis aujourd'hui.
Vous voulez pas le dire.
Je vous dis aujourd'hui que je ne vous parce que la science-fiction et la politique-fiction conduisent toujours à des choix.
Mais quand vous dites je mets
que
pas...
j'estime aujourd'hui totalement déplacé.
Quand vous dites je ne mets pas LFI et le RN au même niveau, ça veut dire que quand même, vous voterez LFI face au RN.
Ça ne rend pas du tout, ça ne rend pas davantage LFI acceptable pour moi, pour les raisons que je viens de vous indiquer, notamment.
Mais ils sont dans l'arc républicain.
Et pour le fait qu'en tant que gaulliste, je suis attaché à la Ve République. Donc vous n'imaginez pas que je vais mettre de gaieté de cœur un bulletin dans l'urne pour passer à la Ve République, pour changer nos institutions, pour sortir des traités européens, parce qu'on voit bien qu'à l'horizon, c'est ce qui se profile. Donc soyons clairs, ce n'est pas l'engagement politique qui est le mien.
Pour l'instant, le Rassemblement National a du mal à trouver un prêt pour financer sa campagne. Jordan Bardella annonce qu'aucune banque n'a voulu les financer. Ça vous choque ?
Ah, moi, ce qui me choque, c'est que la démocratie fonctionne si mal, la démocratie électorale fonctionne si mal. Mais c'est pas que le Rassemblement National ne puisse pas trouver un prêt. C'est que tous ceux qui souhaiteraient raisonnablement être candidats aient du mal à trouver un prêt. Donc, que l'on règle, et François Bayrou avait eu une proposition qui était éclairée, de la Banque de la Démocratie, que l'on trouve le moyen de répondre à tous ceux qui veulent aspirer à cette campagne électorale, et qu'ils puissent le faire de façon décente, ça me paraît la moindre des choses.
Vous-même,
vous avez un prêt ? Ne faisons pas d'exception pour le Rassemblement National. La règle commune. Moi, vous savez, je suis fidèle en tout. Règle commune, justice sociale.
On parlait de la France insoumise. Est-ce que vous estimez, comme Bruno Retailleau, que LFI, je cite, un parti de collabo, une forme de collaboration avec les islamistes ?
Vous savez, tout ce qui est excessif est insignifiant, donc vous me permettrez de ne pas commenter non plus ces propos-là.
Pour vous, il n'y a aucun problème.
Mais monsieur Daré, vous parlez à ma place. Je ne suis pas... je ne suis pas Pinocchio dans les mains de Geppetto. Vous me permettrez de faire les réponses moi-même. Je ne vous ai pas dit ça, mais je dis que c'est excessif.
On voit que dans cette campagne présidentielle, bien sûr, il y a la dimension internationale qui va jouer un rôle important. Le nouveau président ou la nouvelle présidente va exercer son mandat dans un monde incertain. Il y a quelques jours, Donald Trump a jugé, je cite, que la charia est comme un deuxième mode de vie à Paris. Qu'est-ce que ça dit du rôle international que le président va avoir? Quelle attitude, vous, président, demain face à Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping?
C'est très dommage, très très dommage qu'Emmanuel Macron ait toujours privilégié d'accueillir un certain nombre de grands chefs d'État comme Donald Trump à Versailles. Parce que s'il était sorti du château, il aurait vu que ce n'est pas vrai. Et donc, il se serait épargné de dire une bêtise. Donc, la réalité, tous les Français la voient, ce n'est pas la réalité de notre pays.
Est-ce qu'il y a une prime à l'expérience dans cette présidentielle pour ceux qui, comme vous, ont eu les manettes à un moment donné sur le plan international, ou est-ce que des novices peuvent s'en sortir dans le monde tel qu'il est devenu aujourd'hui?
Je prie pour que des novices, puisqu'on a un certain nombre de novices qui sont aujourd'hui très très bien placés sur l'échiquier politique, je prie pour que des novices reçoivent la grâce au jour de l'élection s'ils sont élus. Mais ce n'est pas quelque chose de facile. Les relations internationales, je citerai pour mémoire Jacques Chirac. J'ai accompagné pendant plusieurs décennies Jacques Chirac en matière internationale. Et tous les jours, il consacrait plusieurs heures par jour à lire des notes, des télégrammes quand il les recevait en matière internationale. C'est dire qu'il avait une familiarité avec la chose internationale. Comme maire de Paris, il connaissait, comme ancien Premier ministre, il connaissait la plupart des grands chefs d'État de la planète. Est-ce que ça s'improvise? On a vu avec Nicolas Sarkozy que ça s'improvisait pas. On a vu avec François Hollande que ça s'improvisait pas. Et on a vu avec Emmanuel Macron que on peut tourner les choses dans tous les sens et tourner avec le vent et en même temps, ça ne s'improvise pas.
Mais quelle place
pour
si la
France aujourd'hui s'efface de l'échiquier international, regardez cet été.
Mais on compte encore.
On a deux crises qui se sont considérablement aggravées et il faut en prendre la mesure parce que les Français risquent de manger en papillote les conséquences de certaines de ces crises. Prenons le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz va peser extrêmement lourd sur les prix de l'énergie, en particulier, bien sûr, de l'énergie fossile, dans les prochains mois. Et cela a commencé. Les Français se retrouvent avec une essence à 2 euros. Tout cela pèse, en deuxième rang, sur les engrais, et tout cela finira par peser encore davantage sur l'alimentation. Nous voyons donc à quel point tout est lié. Est-ce que vous avez entendu une proposition française ou européenne digne de ce nom sur le déblocage du détroit d'Ormuz, sur la façon d'aborder les choses avec l'Iran? Silence et bouche cousue. Sur l'Ukraine, on voit bien que nous sommes en train de changer de seuil sur l'Ukraine. Non seulement le conflit est en train de s'aggraver, l'Ukraine porte plus loin en Russie son combat, la Russie porte plus durement son combat en Ukraine et on voit bien à quel point les infrastructures énergétiques de l'Ukraine à la veille de l'hiver vont être très durement frappées. Et par ailleurs, la Russie multiplie les opérations hybrides contre un certain nombre de pays de l'OTAN. On a vu l'attaque à Leipzig, on l'a vu également en Roumanie. Et on voit bien que tout ceci constitue une menace de plus en plus grande, au point qu'un certain nombre de responsables de l'OTAN considèrent qu'il y a un risque que la Russie puisse tester l'OTAN. Et il y a quelques jours, le patron de la CIA s'est rendu à Moscou. C'est dire que nous sommes en train de rentrer dans une zone de risque majeur. Je ne vois pas, je n'entends pas la France. Je ne vois pas, je n'entends pas l'Europe. Est-ce que nous sommes à notre place? Non.
Emmanuel Macron s'est beaucoup activé, mais vous ne diriez pas qu'il
activé.
A fait
la coalition des volontaires qui a mis
à la France. J'ai surtout vu la une de Paris Match entre les amours des uns et le jet ski de l'autre.
C'est un peu réducteur, non?
Ah, vous trouvez que c'est réducteur?
Bah, sur l'Ukraine,
de résumer son action au jet ski cet été.
C'est malheureusement très parlant. La crise, elle ne s'arrête pas. Nous franchissons des seuils et il vaut mieux enfourcher les dossiers que d'enfourcher un jet ski.
Vous craignez que Poutine attaque un pays voisin?
Mais tous ces États sont confrontés à des difficultés majeures, pour ne pas dire existentielles. La Russie, elle est aujourd'hui en difficulté. Elle envisage de recruter 600 000 soldats de plus dans les prochaines semaines et les prochains mois. alors qu'elle a eu près d'un million de victimes. La Russie, sur le plan économique, est dans une situation de plus en plus compliquée. À partir de là, il faut qu'elle change la donne. Et il faut donc impérativement qu'elle fasse peur aux autres pays européens, qu'elle fasse peur à l'OTAN, pour que l'Ukraine fasse preuve de plus de retenue. Et c'est pour ça que nous ne savons pas ce qu'a été dire le directeur de la CIA à Moscou. Est-ce qu'il a été parlé seulement de l'Ukraine? Est-ce qu'il a été envisagé une retenue réciproque des deux États? Est-ce qu'il a été parlé également de l'Iran? Parce que l'Iran est aussi en très bonne situation politique et géopolitique et géostratégique dans le Golfe, mais en grande difficulté compte tenu de l'embargo et du nœud coulant qui est en train de
vous
se resserrer.
Vous pensez que vous êtes le mieux placé pour leur parler à Poutine, à Trump et aux autres?
Mais je pense que les choses bougent très vite, qu'il y a des marges de manœuvre qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a quelques mois, parce que tous ces États sont confrontés à des difficultés et qu'ils ne peuvent pas accepter le statu quo qui devient dangereux pour eux, et que quand un État en guerre ne peut pas accepter le statu quo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est à la veille soit de surenchérir, soit d'accepter dans la négociation et à travers la négociation un certain nombre d'offres qu'il n'aurait pas acceptées précédemment. Et c'est là où la diplomatie doit être en action. Donc oui, nous devrions être infiniment plus présents. Oui, malheureusement, nous sommes en train, nous, France et continent européen, en train de nous habituer à disparaître sous la moquette. Eh bien, je souhaite simplement que les élections présidentielles rappellent que pour l'essentiel de sa mission, en tout cas plus de la moitié, le président de la République est d'abord le défenseur de nos intérêts nationaux et donc le responsable de la défense, et le défenseur de notre diplomatie et de notre place dans le monde. Et ça, ça conditionne à la fois le statut de la France, ça conditionne son avenir en termes stratégiques, géopolitiques, et en particulier sa souveraineté. Donc oui, ce sont des choses qu'on ne peut pas considérer comme quantité négligeable. Que serait la France avec Marine Le Pen à sa tête? Bien, écoutez, je n'ose faire de comparaison en termes de taille ou de pays, mais ce que je vous dis très franchement et très simplement, c'est qu'il y a fort à parier que la France ne serait plus la France.
Dominique de Villepin, vous m'avez dit que vous n'aimez pas les quiz, c'est dommage, j'en ai un à vous soumettre.
Eh ben, je vous fais la même réponse qu'au précédent.
C'est la minute présidentielle, vous êtes la première à l'inaugurer, on va l'inaugurer pour cette année, et effectivement.
Vous êtes pas tombé. Hein.
Si vous êtes élu président, Dominique
si,
de Villepin,
si.
Qui est-ce que vous appelez en premier le soir de votre élection? Vous appelez qui?
Oui, mais je vous le dirai pas.
Vous refusez de répondre à la question?
Bien sûr, je refuse.
Vous appelez Donald Trump, Vladimir Poutine?
Mais je vous le dis pas.
Pourquoi?
Mais parce que l'ambiguïté, c'est le premier atout d'un président de la République.
Votre premier déplacement à l'étranger?
Mais je ne vous le dirai pas non plus.
Votre premier été à Brégançon, jet ski ou paddle?
Ben écoutez, je pense que le premier été, il est compromis pour le futur président de la République. Donc qu'il fasse provision de vacances avant, parce qu'il y a fort à parier qu'un président élu au mois de mai n'aura pas de vacances.
L'objet ou la photo que vous poseriez sur votre bureau à l'Élysée?
Pourquoi vous voulez que je pose une photo
sur mon bureau? Ou un objet, un livre, on voit que certains présidents symboliquement
oui,
le font.
Oui, je n'éprouve pas le besoin d'avoir un signe démonstratif sur mon bureau.
Quelle habitude vous refuserez à laquelle vous refuserez de renoncer une fois que vous êtes président? Quelque chose qui est important aujourd'hui, vous dites même président, je ne renoncerai pas à ça.
Ah, le sport, un peu de jogging matinal, ça fait du bien.
La première personne que vous feriez entrer au Panthéon, qui est-ce que vous feriez entrer au Panthéon en tant que président?
Un tirailleur sénégalais. Parce que j'aime bien que la France reconnaisse ses dettes. Voyez-vous, quand on regarde notre histoire, elle est faite de beaucoup d'ingratitude. Un certain nombre de nos présidents ont commencé à reconnaître les dettes de la France. Jacques Chirac a fait, Nicolas Sarkozy a fait des gestes aussi, François Hollande et Emmanuel Macron en a fait d'autres. Mais la façon dont nous avons traité les tirailleurs sénégalais, grâce à qui nous avons gagné la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre, ils ont par ailleurs mené un certain nombre de combats ailleurs à travers le monde, la façon dont nous les avons traités, le massacre de Tiaroy, je n'oublie pas cela.
Donc,
j'estime que vis-à-vis de l'Afrique, il y a un devoir de reconnaissance central. Et la façon dont nous avons, pour ne pas payer des pensions, la façon dont nous avons, pour éviter le risque que pouvait représenter un certain nombre de tirailleurs qui avaient été emprisonnés sur le territoire français au retour, et le risque qu'ils auraient pu avoir de semer la mauvaise parole après 1945 au retour dans le pays, la façon dont nous avons tiré sur ces gens-là, plusieurs centaines de morts, eh bien, je ne l'oublie pas. Et dans ma famille, il se trouve qu'il y a Nous sommes liés de militaires. Il y a un certain nombre de mes parents qui ont combattu avec ces tirailleurs algériens, sénégalais, c'est le titre générique. Et je n'oublie pas cette dette. Sans la contribution de l'Empire colonial, la France, qui est en paix aujourd'hui et dans laquelle nous vivons, ne serait pas la même.
Merci beaucoup Dominique de Villepin d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je veux être candidat à l'élection présidentielle dans quelques instants. Vous retrouvez Pauline Rovnard. Moi, je vous retrouve ce soir à 21h pour un entretien exceptionnel avec Édouard Philippe, autre candidat à la présidentielle. Restez sur BFM, bien sûr.